redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Quatrième série, les chroniques délinquantes de la vie en rose. Épisode numéro 8. Chronique numéro 32, y a-t-il un but dans la salle ? Ou relance et compte ? Aux rédactrices de La Vie en Rose. Écoutez, les petites filles, j'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide et je viens à votre secours. J'en ai conclu que vous aviez enfin compris que votre problème majeur était le manque d'hommes dans votre équipe et dans vos pages. Maintenant que vous avez abdiqué à ce sujet, on va pouvoir s'entendre. Moi, je trouve que Régent Tremblay a trouvé l'affaire dans sa série Lance et Compte. Il recrée des vrais héros. Vous devriez prendre exemple sur lui pour faire votre relance, parce qu'il y a une nette pénurie de héros dans votre revue, et les femmes en ont besoin. Malheureusement, vous devez savoir qu'il n'y a pas une femme qui peut scorer comme un gars à tous les points de vue. Vous devez avoir fait un colloque là-dessus. C'est clair dans le scénario de Tremblay, les gars sont faits pour scorer, autant sur une patinoire que dans un lit, et les femmes sont faites pour les admirer et se faire scorer. Un peu d'humour piquant n'a jamais fait de mal à personne, on s'en rend bien compte dans la chambre des joueurs. Elle est bien bonne celle-là aussi. Avez-vous fini par avoir de l'humour après 15 ans de féminisme ? Il serait temps. On a besoin de stimulation. On n'est que des hommes après tout, avec tout ce que ça suppose de saine compétition et de virile mise en échec. That's the name of the game. Un peu d'anglais dans vos pages ne ferait pas de mal non plus, c'est sharp. La vie est cruelle, on l'aime de même. Le héros Marc Gagnon va se faire tasser par le petit Pierre Lambert et c'est ça, la vraie vie. Vous l'avez enfin compris puisque vous voulez devenir compétitive et vous serez obligé de jouer du coude même si on sait que vous êtes loin dans la course. Ça ne fait rien, lâchez pas, tout est possible. Regardez la montée de Régent Tremblay de Chicoutimi à La Presse à Montréal, puis à Radio-Canada, quasiment sur le même pied que JR dans Dallas. Chapeau. Sa recette n'est pas compliquée, mais il fallait y penser. D'abord, une belle chanson thème en anglais. Puis, des beaux gars athlétiques adulés des foules en public et des femmes en privé. Ensuite, quelques françaises, parce que c'est une coproduction, et des belles petites filles qui savent encore admirer ce qui est le plus admirable au Québec, les grands joueurs de hockey. En plus, elle les aime assez pour les stimuler et les attendre sagement à la maison en leur pardonnant leurs petits écarts, parfaitement normaux, dus au stress épouvantable qu'ils sont obligés de vivre, les pauvres gars. C'est de toute beauté. On mélange tout ça et ça lève comme une belle pâte. Il fallait que quelqu'un reprenne les choses en main. Un jour, et il est heureux que Radio-Canada et tous les organismes subventionneurs l'aient compris et aient donné la chance à Tremblay d'être la personne pour le faire. On vous embouche un coin, les filles. Vous pensiez pas qu'on allait se redresser aussi vite après vos attaques répétées contre notre bon vieux patriarcat. Non mais, entre nous, c'était plate, la bonne aventure. Je n'ai pas hâte de voir des dames de cœur. Enfin, Radio-Canada étant une TV d'État, elle doit s'efforcer de plaire à tout le monde, j'imagine. La bonne aventure avait des bonnes cotes d'écoute, je vous l'accorde. Mais ça devait être juste des femmes qui écoutaient ça. Les chiffres sont faussés en partant, ça ne compte pas. Avez-vous remarqué aussi tous les commerciaux conçus en fonction de lance et compte ? C'est subtil sans bon sens. On ne peut pas oublier qu'on est en train d'écouter la série télévisée. Ça marche à mort. Vous devriez faire pareil pour votre relance. Avoir plein d'annonces de commerçants qui diraient « On est fiers d'annoncer dans La Vie en Rose ». Et quand il y aurait une photo de belle femme, elle pourrait être habillée seulement avec des pages de la revue judicieusement mises au bon endroit. Ce serait « exciting ». Personne ne pourrait jamais penser être en train de lire Châtelaine. Plus d'erreurs possibles. Les gens se mélangent tellement facilement. Il faut les aider, les prendre par la main, leur expliquer toujours la même chose. C'est ça le bon marketing. Vos articles sont souvent trop durs à comprendre et ils racontent des choses qu'on ne sait pas d'avance. C'est dangereux pour les ventes, faites attention. Regardez Tremblay. Il a compris qu'il fallait simplifier au maximum la grande complexité d'un joueur de hockey. Parce qu'il ne faut pas que ça vire intellectuel. Les joueurs auraient l'air trop tapette. Comprenez-vous ? Il faut accepter de faire des compromis, sinon on ne passe jamais. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour votre relance. Il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir. J'aime voir des petites filles se retrousser les manches, et le reste, des petites filles baveuses qui n'ont pas froid aux yeux. Ça me stimule quand ça ne cède pas trop vite. Lâchez pas, on vous aime même choqué. Joss Rambo Blow. Novembre 1986. chronique numéro 33, y a-t-il un oui ou un non dans la salle ? Vite, j'en ai besoin. Je cherche un oui authentique et un non authentique. J'en cherche un seul à la fois parce que ça m'étonnerait que je tombe sur une table pleine à ras-bord. C'est aussi rare que la vérité, la justice, la compassion et autres fraises en hiver. Oui et non, les deux mots les plus courts et les plus compliqués de la langue française. Je suis même allée jusqu'en thérapie pour les trouver, sans succès pour l'instant. Mais la thérapie est jeune et le problème est vieux. Je ne désespère pas. Et quand on en trouve, on risque de tomber sur un filon ou un geyser, ça dépend si on les voit solides ou liquides. Ou ça creuse creux, ou ça jaillit. Ça dépend du mode de fonctionnement. Je ne voudrais pas entrer dans l'intime, le yin ou le yang, ces fruits juteux et exotiques. Tout se branle-bas de combat parce que je veux faire le ménage. Elle n'est pas capable de prendre une balayeuse comme tout le monde. Mes chats ont peur de la balayeuse. Je n'aime pas non plus les coups de balai ou les coups de torchon, c'est trop brutal. Alors il ne me reste toujours qu'une solution. M'évanouir entre le oui et le non pour emprunter une image saisissante à Suzanne Jacob. Bon, évidemment, vous aurez vite compris que je ne parle pas de faire le ménage de mes papiers. En passant, je n'y arrive pas non plus, jeter me traumatise. Ou de mon appartement, mais de ma vie, ce qui suppose une quantité faramineuse de recoins pleins de motons et de moutons, de nœuds, de non, pas dit, de oui, à dire. Je me suis rendu compte en décembre 1983 que je ne savais dire ni oui, ni non. Pourtant, j'en jase un coup, mais justement, j'ai beaucoup de mots de remplacement, un formidable vocabulaire de diversion. Mais je croyais alors pouvoir m'en passer, contourner le problème. J'étais prétentieuse à cette époque, ça m'a passé. Et la situation se dégradant, bien sûr, comme plusieurs situations savent si bien le faire, je me suis retrouvée à faire des choses que je n'avais pas envie de faire, à ne pas faire des choses que j'avais envie de faire, à voir des gens que je n'avais pas ou plus envie de voir, à écouter des choses que je n'avais pas envie d'entendre, loin du centre, loin du cœur. Et puis, j'ai eu cette illumination, comme un vertige ou une bouffée de chaleur. Quand on est incapable de dire non, on est aussi, par conséquent, incapable de dire oui. Et c'est ça le pire, pour moi en tout cas. Tiens, des relents de référendum. Je n'avais jamais dit oui de ma vie, sauf au référendum. Merde, incapable de fermer la porte, incapable de l'ouvrir, incapable de mettre le répondeur si je suis là pour répondre, incapable de n'être là pour personne, incapable, c'est rageant. Mais c'est fini tout ça. Je viens de déménager et ma nouvelle porte sait se fermer. C'est du dernier chic. Ça n'empêche pas d'avoir des fenêtres partout, c'est limpide. Je me pratique sur mes chats à leur dire oui et non. Ils sont en train de virer fous d'ailleurs. Parce que c'est plus facile que sur des gens. Je considère que je suis en laboratoire en ce moment. Mais attendez que je tombe dans la pratique. Avec des oui et des non authentiques, je vais valoir très cher. Je serai hors de prix, dans le luxe le plus total. Et pourtant, curieusement, plus abordable qu'avant. Allez-y comprendre quelque chose. Post-scriptum. Note de recherche. Il semble que même si on dit un vrai oui, on peut se faire répondre non. À moins qu'on ait pris pour un oui authentique un simili-oui ? Vérifiez. Et le oui est-il contagieux comme le rire ? Vérifiez. Décembre 1986.
Je crois qu'Hélène avait tellement de qualités intellectuelles. De qualité d'écriture, d'humour, qu'elle a pris un autre chemin. Elle a pris le chemin de l'écriture et pas de la confession en petit groupe, ce qui n'empêchait pas les amitiés d'être parlantes. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de défauts du militantisme dont Hélène n'avait pas besoin. Elle avait du courage et elle n'avait pas besoin d'utiliser d'autres armes que l'humour et l'écriture.
Chronique numéro 34. Y a-t-il une scène noire dans la salle ? Je n'étais jamais allée dans une banque rue Saint-Jacques. N'oubliez jamais que je viens de Jonquière et qu'à Jonquière, il n'y a pas de rue Saint-Jacques. On y trouve des banques qui ont plutôt l'air de tirelire à côté des sièges sociaux de la Banque de Montréal, de la Banque Nationale, Royale, Globale, Déloyale, Pontificale, Monumentale, Occidentale. Oups ! excusez mon emportement. Je ne parle pas des caisses populaires qui, justement, sont trop populaires et donc très vulgaires. On sent très fort que, dans ces banques, on peut empiler l'argent à l'infini tellement les plafonds sont hauts. J'ai failli virer à 180 degrés quand j'ai mis les pieds dans cette cathédrale de la finance. Je venais changer un simple chèque et j'ai cru un instant que si je n'étais pas un camion de la Brinks, je n'aurais même pas le droit d'y entrer. J'ai failli sortir mon mouchoir pour effacer les traces de mes bottes. J'avais honte de mes bottes ce jour-là. Elles n'arrêtaient pas de faire de l'eau mêlée de calcium et de déchets charbonneux non identifiés. Elles le faisaient exprès, j'en suis sûre. La statue gigantesque au glaive pacifique, censée représenter le cash, je suppose, m'a regardée de travers. La queue de clients, qui d'habitude remplit une banque à dimension humaine et nous fait retourner sur nos pas parce qu'on n'a pas le courage d'attendre, avait l'air d'une petite queue ridicule, une ficelle presque, laissée là négligemment par une femme de ménage pas trop regardante et payée trop cher pour la peine. Marbre, dorure, colonne dorique, ionienne, corinthienne. J'entrais dans une église pour assister à une messe grandiose. J'hallucinais. Paniquée, je me demandais s'il fallait que je m'agenouille, que je sorte la langue ou que je batte ma coulpe parce que c'était de ma faute. À Jonquière, le marbre ne s'est jamais rendu. Le parc des Laurentides n'est pas rentable à traverser. De toute façon, on sait bien, tout le monde, que l'argent ne va jamais dans les régions éloignées. Donc pas besoin de banques éléphantesques, ce serait ridicule pour aller déposer son chèque de bien-être, de chômage ou de vieillesse. Une tirelire suffit pour les rouleaux de Seine-Noire. À Montréal, ça fait longtemps que les scènes noires n'existent plus. On les garde uniquement en souvenir, pour les enfants ou pour la guignolée. La madame de la paroisse Saint-Jean-Baptiste vient de passer pour les pauvres. Du vrai argent, il faut que ça craque dans les doigts, pas que ça sonne au fond des poches. Et idéalement, il faut que ça ne fasse pas de bruit. Mais selon des études, il faut un certain montant assez élevé pour que le bruit cesse et que l'argent devienne invisible. Non seulement il ne faut pas l'entendre, mais il ne faut pas le voir non plus. La plupart des gens ne savent pas vivre, en fait. Ils sont trop ostentatoires avec l'argent. C'est mauvais. L'argent n'aime pas ça. Il est très susceptible et boudeur. Il faut savoir le prendre, sinon on est obligé de s'en passer. Alors je me suis dit que c'était très stratégique et très intelligent de la part des hommes qui ont pensé les banques de la rue Saint-Jacques, et d'ailleurs, de s'inspirer des cathédrales. Ça impressionne les fidèles. Parce que si elles avaient été construites à une échelle trop humaine, personne n'aurait pu croire au pouvoir infaillible de Dieu, donc de l'argent. Les curés l'ont compris depuis deux millénaires déjà. Ils se sont payés des tas de tiares éblouissantes avec ce qui fut, je crois, la première véritable idée qui mit au monde le marketing, en mettre plein la vue. Depuis, on a eu droit au stade et à dynastie, entre autres éléphants enflés. Tout ça pour dire que j'ai un rapport très difficile avec l'argent. Ils ont parlé de moi à la radio l'autre jour. Ils n'ont pas nommé mon nom, mais ils ont dit que je faisais partie des statistiques. Je gagne tant, je n'écoute pas beaucoup la télé, je suis propriétaire d'un appartement, etc. Je ne me souviens plus pourquoi ils parlaient de moi, mais c'est vrai que je viens de m'acheter un appartement. Et je vis dans la hantise que je ne pourrais pas le payer. Ça doit être parce que je viens de Jonquière. Selon les statistiques, je peux me le payer. Mais moi, je n'en suis pas sûre. Surtout depuis que je me suis sentie comme un pois chiche à la Banque de Montréal, rue Saint-Jacques. Et je déteste faire partie des statistiques en plus. Louise, elle, dit qu'elle meurt d'envie d'entrer dans celles qui partent à 40 000 $ par année. Je pourrais peut-être l'emmener avec moi dans les statistiques, mais je trouve qu'il fait trop froid. Puis quand il n'y a pas d'odeur, moi, je m'ennuie. Janvier 1987. Chronique numéro 35, y a-t-il une passion dans la salle ? Ma nouvelle voisine d'en haut a peur de moi parce que je parle trop fort à son sujet devant elle. Autrement, elle me trouve plutôt silencieuse d'un plancher à l'autre. Elle voudrait même m'entendre plus parfois, ça la rassure. Les bruits de marteau qui cognent ou de bain qui coule la rassurent. Mais le bruit que je fais dans les relations humaines lui fait peur. C'est l'unique endroit où je fais du bruit maintenant. Avant, parce que les humains humaines me terrorisaient, j'éprouvais le besoin de faire craquer les planchers ou crier les ressorts du sofa, ces petites choses anodines qui crispent les mâchoires de tout le monde et augmentent le coefficient de tension. Surtout, faire craquer les châteaux d'une chaise berceuse. C'était ma spécialité. Maintenant, je fais rarement des bruits de cette sorte, sauf par nostalgie, parfois. Mais je fais du bruit dans les relations humaines, parce que ça, ça me passionne. Et plus j'aime quelqu'un, plus j'en fais. Je suis gourmande. Ma voisine d'en haut ne comprend pas ça. Elle est tout aussi passionnée que moi, mais elle est trop bien élevée, elle. Elle pense que je lui en veux. C'est vrai que ses oreilles sont les plus petites que j'ai jamais vues et que ma voix est du type stentor quand je m'enflamme. Et certains soirs, je m'enflamme à rien. Je suis du genre incandescent. La lave de mes volcans déferle sur tout ce qui est animé ou inanimé, sans restriction. Et ça ne part pas au lavage. J'admets que ça peut faire peur. Surtout que tout ce qui existe en ce moment n'est inventé que pour rendre l'isolement plus confortable ou plus important, selon. Ça a commencé avec le téléphone. Enfin, on n'avait plus besoin d'aller se voir pour s'entendre. Tout ce qui a été mis sur le marché par la suite est allé dans le même sens. C'était presque visionnaire, me direz-vous, avec la profusion actuelle de MTS. Si on n'avait pas le téléphone, la télé ou le magnétoscope, on se sentirait bien seul. Mais on est déjà tellement habitué à ne plus avoir de contact qu'on se fout de ne plus pouvoir baiser à cause des MTS. Le monde est bien fait quand même. Tout arrive comme si c'était calculé grâce à la grande vision de la science. En France, ils sont encore plus avancés. Ils ont le Minitel et ils se parlent sur écran. Ils se séduisent sur écran et se prennent dans leurs bras sur écran. Je suis sûre que les MTS sont moins répandus chez eux. Évidemment, ça coûte plus cher en crème hydratante parce que les gens sont en train de sécher sur place. Ça coûte plus cher aussi en thérapeute et en fantasme. Mais c'est un investissement minime comparé au péché qui paraît soigné aux antibiotiques et aux relations humaines où l'on risque à tout moment de laisser sa peau, au propre comme au figuré. Je comprends que ma passion soit épeurante. C'est une manière d'entrer en contact un peu violente comparée au Seren Rap dont il faut s'enrober aujourd'hui si on ne veut pas se faire graffiner ou éclabousser de microbes ou d'idées. Je ne suis pas hermétiquement fermée. Alors, il y a des scories qui passent à certains moments, comme des grosses roches dans ma voix ou de la flamme de dragon dans ma bouche. En plus, je me trompe parfois. Et c'est pire, ça sort un peu croche. Mais je continue vaillamment mon désir de contact. Ma voisine d'à côté, elle, dit que je rue dans les brancards. C'est vrai que j'ai souvent un ton d'urgence qui fait penser à une sirène d'ambulance. Je crie parce qu'il y a quelque chose de malade à mettre sur ces brancards. Comment je m'exprime est aussi libérant pour moi que le rock pour d'autres. Je n'explique pas tout ça pour excuser mon manque fréquent de subtilité. Je le fais pour vous avertir que moi, en ce moment, je suis dans une lutte à finir entre la GI, la génération de l'isolement, et l'AGE, l'association des grégaires enflammés, dont je fais partie avec quelques autres. Sale, grossière, tonitruante, mais vivante. Tout en faisant attention aux oreilles fines de ma voisine d'en haut, quand même, je parle fort, mais j'écoute tout aussi fort. Février 1987. Chronique numéro 36, y a-t-il un hasard dans la salle ? Ça y est, la science fornique. Les lits vont devenir une espèce en voie de disparition comme les baleines bleues. Je le savais, je les voyais venir, les scientifiques, avec leurs seringues et leurs éprouvettes en forme de phallus. Déjà, c'était donc de la préméditation. Et voilà que les vagins sont remplacés en douce par des bocaux de vitre, le réceptacle parfait, édenté d'avance, lisse, transparent, inodore, incolore, contrôlable, magnifique. Sigmund, le fameux continent noir, vient de prendre la même débarque que l'Atlantide. Tu peux dormir sur ce qu'il te reste de tes deux oreilles. La science a vaincu l'imaginaire et son cortège de maladies. Depuis qu'une seringue peut s'accoupler avec un bocal, il n'y a plus de complexe, plus de gêne, mais seulement des gênes, plus de cris de jouissance mal placés derrière les portes, ces cris dont on ne sait même pas d'où ils viennent tant ils sont profonds et sans aucun rapport avec le quotidien et le four micro-ondes. Mais ces cris, qui ne nous ressemblaient pas à cause de notre haut niveau de civilisation et de raffinement, donnaient parfois des bébés si les deux corps en présence n'étaient pas du même sexe. Faisons ensemble un exercice de mémoire, c'est loin tout ça. Quel pattern d'hystérie quand on y pense. Fini les MTS. Les condoms ne sont plus bons qu'à faire des ballons. Jean-Yves Desjardins peut aller se rhabiller et alimenter son feu de foyer avec des caisses de livres. Plus de problèmes de sexe. Nous n'aurons plus qu'à aller faire nos dépôts régulièrement aux banques de sperme et d'ovules, puis à revenir se regarder dans les yeux et à cultiver l'amitié. La reproduction est assurée. Nous pouvons enfin nous reposer de l'amour, cette horrible maladie souffrante qui finit mal une fois et trois quarts sur deux et qui brise systématiquement ce qui aurait pu être de si belles amitiés à cause du sexe qui rend aveugle, sourde et folle, qui fait prendre des valium ou des antibiotiques et qui fait augmenter en flèche le taux de journaux intimes et de poèmes plates. Merci la science, vive la mère machine. Ça y est, j'ai mal au cœur. Non. Ce n'était pas un discours de Gilberte Côté-Mercier ou de Réal Caouette. C'était encore mon imagination qui galopait comme si elle sprintait dans une fin de course. J'ai des montées d'imagination comme d'autres ont des montées de fièvre ou de lait. Et après, j'ai mal au cœur. Tout ça parce que Nicole a fait une farce. Elle a dit qu'elle craignait que les gens qui naissent après avoir été des embryons congelés soient tous frigides. C'était drôle sur le coup. Mais après, je ne sais jamais quel bord va prendre mon imagination, je me suis mise à avoir peur pour le hasard. J'ai un faible pour lui, et je me suis dit que si on continuait de vouloir le contrôler et de le traiter de chien sale comme les scientifiques le font à mots couverts, il allait se retourner contre nous. Déjà que les scientifiques n'étaient pas contents de la Terre et qu'ils ont essayé de la refaire à leur image et à leur ressemblance. Ça n'est pas joli joli. Et la Terre a commencé à se venger, à craquer de partout. Voilà qu'ils s'en prennent maintenant aux humains qui naissent avec des tas de tares et qui ont le défaut majeur de ne pas être éternels. Les scientifiques ne peuvent pas laisser faire ça, chevaleresques comme ils sont. Alors, ils volent à la rescousse des couples infertiles, qu'ils disent. Ils ont dit aussi, dans le temps, qu'ils avaient aidé à gagner la guerre le 6 août 1945. Moi, j'aurais préféré qu'ils laissent faire le hasard. Tout le monde a eu peur, et on sait bien maintenant que tout le monde avait raison d'avoir peur. Saint Testard, priez pour nous. Jacques Testard, biologiste, est l'un des pères du premier bébé éprouvette français. En septembre 1986, il lâchait sa bombe « Je n'irai pas plus loin » et proposait un moratoire international sur la recherche en reproduction humaine. Mars 1987. Chronique numéro 37, y a-t-il un REER dans la salle ? Monsieur Michel Bélanger, président de la Banque Nationale du Canada, 600 rue de la Gauchetière Ouest, Montréal. Cher monsieur, je viens de trouver un beau bloc-notes presque neuf dans des poubelles mitoyennes au Carré Dominion et je vous écris, assise sur le banc de la société, là où j'ai choisi de m'asseoir avant qu'on m'y installe de force. J'ai mon orgueil. J'ai pas trouvé d'enveloppe ce jour-là, alors excusez ma feuille pliée avec votre adresse dessus. Et puis, je truste pas les postes. Je préfère porter moi-même ce que j'ai à dire. En passant, vous avez un bien beau portique, grand, bien chauffé, avec de bons gardiens. J'ai dû leur promettre de sortir tout de suite s'ils me juraient qu'ils vous remettraient ma lettre. C'est comme dans vos banques. On fait des difficultés à du monde propre qui porte du beau linge, alors imaginez ce qu'on me fait à moi quand j'arrive au guichet. C'est quasiment un cas de sit-in à chaque fois que je veux déposer mon chèque de bien-être. Ils me reconnaissent jamais. Pourtant, je suis très reconnaissable. À chaque fois, je dois leur prouver que je suis née. Les caissières font une réunion spontanée autour de ma signature en chuchotant, puis elles finissent toujours par aller chercher le gérant. J'en suis à me demander si ces manières bizarres feraient pas partie de vos règlements, tellement c'est toujours pareil. En plus, je me fais haïr par le reste de la queue parce que je passe trop de temps au comptoir. Mais on s'habitue. J'apporte maintenant mon jeu de cartes et j'ai le temps de faire une petite patience. Comme ça, ma pression monte pas et je perds pas de temps à haïr votre système de fou. J'ai déjà suffisamment d'usure et pas mal de millage, j'évite d'en rajouter. En passant, vous auriez pas un vieil as de pique qui traînerait ? J'ai juste 51 cartes. Directeur de banque comme vous êtes, vous devez être un gros gambler, et un 4 de carreau aussi. Comme il manque un morceau, je les reconnais toujours et ça me porte à tricher. Pour en revenir à mon propos, j'ai une question à vous poser. Je l'ai essayé sur vos employés, mais à chaque fois ça les a saisis. Moi aussi, j'ai été saisie en 1973, alors je sais ce que ça fait. Si on n'a pas d'adresse, est-ce qu'on peut quand même prendre un REER ? J'ai 51, comme mon paquet de cartes. Faut que je commence à penser à mon avenir. Avant, je recevais mes chèques du BS au dépanneur chez Momo. Doris, la femme de Momo, me gardait mon chèque. Mais les boubous macoutes ont dit que mon état n'était pas réglementaire vu que j'habitais pas chez Momo. C'est bien trop petitement là-dedans. Je suis obligée d'ouvrir la porte du frigidaire à liqueur pour pouvoir me virer de bord au bout de la rangée. On est obligé d'aller gratter nos billets de loto dans la rue tellement c'est empilé. C'est juste si on a de la place pour prendre son argent de poche. Alors, j'ai pris un arrangement avec le BS et je vais chercher mon chèque au bureau à chaque mois. Mais je voudrais pas que le BS sache que je vous ai écrit pour un REER. Ça doit pas être réglementaire. Alors, écrivez-moi pas là. Mais j'ai un horaire assez facile à suivre. Le lundi, c'est sacré, je vais faire mon lavage dans les toilettes des autobus voyageurs au coin de Berry et de Maisonneuve. J'en ai pour un bout de temps parce que je fais sécher mon linge au séchoir à main qu'il faut rallumer aux 30 secondes. De 5 à 7, je fais les poubelles où elles passent le lundi. Là, je suis plus difficile à trouver parce que j'essaie des nouvelles poubelles à chaque fois. Mais à 8 heures, j'écoute toujours des dames de cœur à la brasserie Brador au coin de Saint-Laurent et Prince-Arthur. Je couche pas toujours à la même place, mais souvent au métro Berry, sur le banc très large du côté est de la rue. L'hiver, je vais souvent aux Galeries du Puy pour regarder le film de l'après-midi à travers la vitrine de chez Atlantique. Ils ont 22 TV. Je vois pas pourquoi je m'en achèterais une vu qu'ils les ouvrent toutes et que je manque jamais mes programmes. L'été, je me tiens plus au Carré Saint-Louis. Avec tous ces repères, ou repères, je sais plus comment ça s'écrit, vous devriez être bon pour me trouver facilement. Écrivez-moi à une de ces places ou à tout en même temps. J'ai pas d'adresse, mais j'ai une certaine habileté à me faire reconnaître. C'est moi qui ai ma garde-robe au grand complet sur le dos et tout mon appartement dans 4 sacs de chez Eaton et un de chez Provigo. C'est les plus solides. Écrivez ça au facteur sur l'enveloppe, il peut pas me manquer. J'ai pas d'adresse, mais j'ai un nom et je signe. Rosa Rose Roson. Avril 1987.
Et Hélène avait des pulsions de révolte contre tout ce qui était injuste, contre tout ce qui était faux. Elle aimait ce qui était vrai, ce qui était authentique.
Chronique numéro 38. Y a-t-il une raison de vivre dans la salle ? Je ne sais pas si le facteur a souffert d'une bouffée subite d'uniforme la semaine dernière, mais il s'est transformé en police sous mes yeux. La métamorphose était hallucinante. Il m'a fait une scène paternale aux policières comme quoi je n'avais pas de bon sens, que j'étais une négligence criminelle en puissance parce que je n'avais pas pelleté mon entrée de l'hiver, que sa vie était en danger chaque fois qu'il s'approchait de ma boîte à mal et qu'il n'était pas payé pour être héroïque. Essoufflé, rouge comme un tampax qui a rigoureusement accompli sa tâche, il a terminé sa diatribe en beauté en me menaçant de confisquer mon courrier jusqu'à ce que je vive comme du monde. Il n'a pas dit que j'étais la honte de la rue Christophe Colomb, mais je suis sûre qu'il l'a pensé. Moi, je me suis dit intérieurement, parce que je n'ai pas pu placer un mot vu qu'il ne m'a pas laissé un seul silence disponible, qu'il devait haïr l'hiver au plus haut point. Puis je me suis dit que je devais manquer de raison de vivre parce que pelleter mon entrée n'est pas pour moi une raison de vivre suffisante. J'aime la neige, j'aime y laisser des traces et, pour moi, une entrée est faite pour être tapée et non pelletée, ce qui crée un fossé infranchissable entre mon facteur et moi. Vous me direz que ça irait très mal à Montréal s'il fallait que la ville pense comme moi. Exact. Mais moi, je n'ai pas d'autobus, de camion, de livraison, d'auto à stationner et de personnes âgées qui viennent sonner à ma porte. Quand mes amis et moi, on aura 70 ans en montant, je verrai à réviser ma position. En attendant, j'endure des commentaires désobligeants à droite et à gauche parce que je ne vis pas comme du monde et je raisonne avec l'insouciance et la cruauté de la jeunesse qui a encore ses deux jambes bien solides. Les enfants, eux, adorent venir chez moi parce qu'ils ont l'impression de vivre une formidable aventure, d'entrer dans un tunnel mystérieux où on ne sait pas si peut-être il n'y aurait pas par hasard un beau monstre bien effrayant. Ils vivent l'arrivée à ma maisonnette comme une victoire, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ça fait plaisir. On ne peut pas plaire à tout le monde et aux enfants. Et je soupçonne mon facteur d'être sur le bord de prendre sa retraite. La neige est faite pour fondre, pas pour être tassée dans un coin comme si elle n'existait pas. Je songe à la valorisation intense du soleil quand il viendra fondre la montagne devant chez moi et ça me réjouit. Des mauvaises langues diront que j'ai un très bon réservoir d'excuses, pour le moins fantaisiste, pour justifier mon incurie. Langue de vipère, ne vous mordez jamais la langue, vous allez vous empoisonner. Mais pas du tout. Je ne sais pas vivre comme du monde parce que je manque de raison de vivre. Je n'ai pas d'enfants et je traite mes chats en colocataires parce que je n'ai pas le sens de la propriété. Faire de l'argent, acheter un appartement, prendre un REER, jouir de la satisfaction du devoir accompli, pour moi, ne sont pas des raisons de vivre. Je dois avoir un défaut hormonal grave. Je ne sécrète pas assez de raisons de vivre ou de raisons de se lever le matin. En dehors des cinq sens, de l'amour et parfois de la création, toute chose précaire et risquée, j'en produis peu. Comme un homme qui n'arrive pas à faire d'enfants parce qu'il ne fabrique pas assez de spermatozoïdes. Et les raisons de vivre qu'on me propose dans cette société me feraient faire de l'eczéma, si je faisais de l'eczéma. Mon dépanneur aussi trouve que je mène une drôle de vie. Je lui téléphone au moins une fois par jour pour une livraison. Et souvent, je lui téléphone de chez mes voisines d'à côté. Il finit par ne même plus savoir où j'habite en réalité. Il doit trouver que nous manquons constamment de l'essentiel. J'appréhende la scène qu'il me fera un jour prochain sur le fait que je ne sais pas vivre comme du monde. Quant au camelot du Journal de Montréal, il découvre le monde chaque fois qu'il sonne à ma porte pour se faire payer. Il n'a jamais vu ça, une vie pareille. Il faut dire qu'il est encore jeune. Il a le don de me réveiller à tout coup pendant ma sieste, vers 6h, 6h30 p.m. En plus, je n'ai jamais d'argent sur moi pour le payer, parce qu'il vient comme un voleur, le petit Jésus-Christ. Il me regarde d'un drôle d'air, et je l'entends partir en courant quand je referme la porte, comme si j'allais le contaminer et l'empêcher de fonder une famille. Tout le monde qui me regarde vivre trouve à redire. Je ne sais pas vivre, mais je paie mes dettes, c'est toujours ça de prix. La vie vient sans mode d'emploi. Même s'il y en avait eu un, je ne l'aurais pas lu. Il aurait sûrement été en anglais. Et je ne peux pas souffrir les modes d'emploi, quelle que soit la langue. Mai 1987. Note de 1988. Dernière chronique parue dans ce qui fut, nous ne le savions pas alors, le dernier numéro de La vie en rose. Vous venez d'entendre des chroniques délinquantes de La vie en rose de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Nadia Ringard et Nicole Boudreau. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Gros.